Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. Le G20, ce sera le 18 et le 19 novembre prochain. Et on en parle déjà parce que l'on vient d'apprendre que cela se passera à Rio. La thématique a été retenue, elle dit le climat, ce que sera ce G20. Et c'est vrai qu'on peut en parler maintenant parce que c'est vraiment une question qui préoccupe beaucoup. C'est que faire des super riches, des gens qui sont de plus en plus riches dans le monde et qui échappent largement à l'impôt. Comment faire en sorte que ceci puisse être intégré dans nos économies mondiales? C'est la question dont on vient de prendre connaissance qui sera posée à l'occasion du prochain G20. Retour en Europe avec le taux de chômage en Espagne et des chiffres qui sont plutôt bons. Ce taux de chômage a baissé au deuxième trimestre de cette année pour atteindre 11,27% contre 12,29% à la fin du mois de mars. C'est un chiffre qui a été publié par l'Institut national de la statistique espagnole. Et c'est tout à fait important parce que cela veut dire que l'économie espagnole se porte mieux, réussit à créer des emplois, donc à créer de la richesse. Quant au moral des ménages en France, eh bien, il va mieux, il progresse au mois de juillet, même s'il y a un climat politique qui est tout à fait incertain. On se rend compte que malgré tout, il y a une amélioration du moral des Français. Mercedes, plombé par la baisse de ses ventes au deuxième trimestre, le mastodonte de la voiture allemande, de la voiture de luxe, de ces fameuses berlines qui ont inondé le monde. Il s'avère que la rentabilité des véhicules aujourd'hui a baissé. Ce sont des voitures qui coûtent toujours extrêmement cher à produire. Il y a une hausse générale des matériaux de base, de la technicité, de l'informatique. Et tout ceci fait qu'aujourd'hui, à la fois, il y a moins de gains d'argent sur chaque véhicule qui est vendu, mais également le volume global des ventes est à la baisse. Et puis l'Iran, l'économie iranienne, comment ce pays qui est sous sanction fait-il pour tenir alors qu'il est engagé sur tant de conflits de guerre, alors qu'il a tant de soutien à l'étranger qui sont eux-mêmes engagés dans des phases conflictuelles, par exemple les Houthis, par exemple le Hezbollah, par exemple les milices pro-iraniennes en Irak. Comment finalement cet aéropage de groupes armés, ces sanctions économiques sont pourtant présentes? Il y a aussi les sanctions américaines qui sont tout à fait prégnante. Comment se fait-il que ce régime réussisse à tenir? On pose la question à notre invité du jour aujourd'hui dans Economia. Il s'agit de Manaz Shirali, qui est sociologue et politologue iranienne. Elle est actuellement la directrice des études de l'Institut des sciences et de théologie des religions à Paris, directrice de l'Institut catholique également de Paris. Manaz Shirali, aidez-nous à comprendre finalement cet équilibre fragile qu'est l'Iran. Comment ce pays fait-il pour tenir d'un point de vue économique?
Quand vous dites les zones rurales, vous passez, vous en fait démarrez de postulat qu'il y a 50% de la population vive dans les campagnes et 50% dans les villes. Ça n'a jamais été le cas. Déjà, à l'époque du Shah, un tiers de la population, pas plus, vivait dans les zones rurales. D'accord. Aujourd'hui, c'est encore moins. Pas plus tard que ce matin, j'ai regardé les chiffres, c'est quelque chose dans les 20 à 25% de la population iranienne qui vivent dans les campagnes, dans les zones rurales, tout simplement parce que il n'y a pas d'eau et les mauvaises politiques ont complètement détruit la zone rurale. Ça, c'est pas vraiment l'apanage de la République islamique. Avant aussi, sous le régime de Shah, l'un des plus graves problèmes, c'est que la population rurale se dépopularisait, les gens partaient vers les grandes villes. Aujourd'hui, c'est une accélération de l'émigration vers les villes. Bah, du coup, les zones rurales en Iran, ce n'est pas comme ça que vous pensez qu'il y a 50% des Iraniens qui vivent dans les, les campagnes.
Mais comment ils font à ce moment-là pour nourrir la population? Parce que est-ce que l'Iran a l'autosuffisance alimentaire? Parce que c'est un véritable problème gigantesque d'avoir des campagnes qui ne font plus leur métier premier, qui est de nourrir les populations. Comment le régime fait?
Non, justement, c'est ça le problème de l'Iran. C'est un grave problème de l'Iran. L'Iran n'a pas l'autonomie alimentaire. et en louant les mers du sud, la mer Oman et la Golfe, le Golfe Persique aux Chinois, là, même les gens qui vivaient dans les côtes du sud, ils n'ont pas de quoi manger. C'est pourquoi ils ont tous été obligés de quitter leur ville et leur village. De plus en plus, on a des mouvements de masse en Iran à cause de la famine.
C'est incroyable. C'est incroyable. Mais quand ça se passe, c'est-à-dire que les gens vont se réfugier dans les zones périurbaines, c'est à ce que l'État prévoit des choses pour les accueillir. Parce que, regardez, en Irak, on a un phénomène similaire, qui est un phénomène d'appauvrissement des campagnes. L'État irakien, l'autorité centrale de Bagdad, accueille les déplacés internes, on les appelle comme ça en Irak. Et donc, par exemple, il y a des gens qui reçoivent des paniers repas, il y a des gens qui sont relogés dans les cités urbaines. Qu'est-ce qui est prévu pour les agriculteurs en Iran ?
C'est l'augmentation des bidonvilles tout autour des grandes agglomérations.
Oui.
C'est l'augmentation de la prostitution en Iran. Aujourd'hui, en Iran, l'âge moyen d'entrée en prostitution est devenu 9 à 10 ans, alors que la moyenne mondiale est 13 ans. Donc, le pays entier est dans un état catastrophique.
Mmh.
Et le problème, c'est que rien ne fonctionne. Les gens continuent encore leur survie grâce à l'économie parallèle, grâce à toutes sortes de mafias qui ont été mises en place par ce régime et qui sont nourries par le régime. Et cela ne s'appelle pas, à mon avis, un fonctionnement économique. C'est le désastre économique.
Mais alors, comment l'Iran, qui aujourd'hui est un État engagé dans de nombreux conflits à l'étranger, là, par exemple, ce matin, il était publié par les autorités iraniennes que les exportations d'armement fonctionnaient plutôt bien. Alors après, il faut se méfier des chiffres qui sont annoncés parce que il faut toujours être extrêmement prudent avec le déclaratoire des autorités de Téhéran. Mais comment le régime fait-il pour avoir les ressources financières, pour avoir une politique étrangère indépendamment de ce qu'est sa politique étrangère, mais tout ça, ça coûte de l'argent. D'où vient l'argent du pétrole, du gaz? Comment font-ils pour boucler leur budget ?
Mais la République islamique vend son pétrole sur le marché noir au
oui.
prix bas, mais quand même ils le vendent et ce sont les Européens et les autres pays qui l'achètent. C'est quelque part grâce aux pays européens que la République islamique continue encore ses sévices dans la région et les Européens ne sont pas encore conscients à quel point ils sont en train de se rendre complices de la République islamique en lui achetant son pétrole. Chaque année, la République islamique vend quelque chose dans les 150 milliards de dollars de pétrole sur le marché noir. Et ça, c'est ça qui lui permet de continuer ses activités paramilitaires dans la région.
Mais où sont les sanctions internationales ? Parce que pendant des années, on a eu une image d'un pays qui était... je mets d'énormes guillemets à tout ça. On avait l'image d'un pays qui était exsangue économiquement, qui était étouffé par les sanctions. Et là, on a le sentiment, depuis 2, 3, 4 ans, finalement, depuis que les États-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire, on a le sentiment que finalement, l'économie iranienne, je ne dirais pas qu'elle se porte mieux, mais elle fonctionne mieux. Est-ce que vous apporteriez des nuances à ce que je viens de dire ? Si oui, lesquels ?
Écoutez, ce qui est exsangue aujourd'hui, ce sont les Iraniens.
Oui.
Le pays est exsangue, ça c'est sûr. Mais les ayatollahs ne sont pas exsangues. Ils ont de l'argent dans leur poche et ils font ce qu'ils veulent. Et grâce aux sanctions, ils peuvent dire aux Iraniens qu'ils ne peuvent pas les nourrir. Ça c'est clair pour eux. Par contre, les ayatollahs sont devenus stars de détournement des sanctions. Aujourd'hui, ils savent très bien comment détourner les sanctions, comment vendre leurs produits, qui est le pétrole, dans le marché noir, comment trouver leur clientèle et comment affranchir l'argent, comment blanchir l'argent. Mmh. Et ça, ils sont parfaitement capables de le faire. Et ils peuvent même créer des universités pour enseigner à la planète entière comment rendre les sanctions inutiles.
Mais c'est parce qu'aujourd'hui, vous dites, c'est pas du tout pour vous prendre à témoin, c'est juste pour la qualité de notre échange. Vous estimez aujourd'hui, madame, que le train de sanctions qui a été décidé par les Européens, par les États-Unis et par les pays alliés, que ces trains de sanctions, finalement, ne sont plus efficients, peut-être comme ils ont pu l'être dans le passé, je ne sais pas si on peut dire ça.
Dans le passé non plus, il n'était pas très,
okay.
efficace parce que l'économie mondiale n'est pas dirigée par les États. il y a des sociétés offshore qui sont complètement indépendantes de l'État et qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et la plupart des clients de la République islamique ne sont pas les États, mais ce sont les sociétés privées qui achètent son pétrole. Alors, c'est ainsi que ça fonctionne et la République islamique a créé sa clientèle grâce à ces sociétés qui sont évidemment liées aux États, mais pas ouvertement, pas officiellement.
D'accord. Alors, on a tout un déclaratoire, et ça, c'est vraiment intéressant que vous nous aidiez à y voir plus clair, parce que, notamment avec la Chine, il y a ce fameux accord, alors qui est un accord sur le très long terme, avec un chiffre absolument démentiel qui est annoncé, qui est de 400 milliards d'échanges économiques entre l'Iran et la Chine. Sachant que, alors, pour le coup, du côté chinois, on voit très très bien comment ça peut se passer, parce qu'effectivement, la Chine est en quête permanente de nouveaux marchés. Mais quand on a des protocoles d'accord comme ceci, qui sont tout à fait impressionnants, qui se déroule sur le long terme. Quelle est la grille d'analyse que vous pouvez nous en proposer? Parce que quand on voit ça, on se dit, mais finalement, l'Iran pourrait s'en sortir grâce à ce type d'accord. Quelle en est l'analyse que vous faites?
Aucune, parce que tout est gardé en secret. Ils n'ont rien publié, ils n'ont rien annoncé aux Iraniens. Ils ont gardé vraiment, c'est le secret d'État le plus gardé. Personne n'est au courant de ce qui s'est passé, de telle sorte qu'il y a des Iraniens qui disent « Non, c'est impossible. Et la Chine n'est pas aussi naïve pour dépenser, pour investir son argent en Iran. » Alors que moi, je suis intimement persuadée que ce n'est pas du tout un accord vide, qu'ils ont vendu une bonne partie du pays aux Chinois. Mais malheureusement, je ne peux rien vous en dire plus, parce qu'on est au courant de rien.
Bien sûr. Mais sur l'idée, c'est intéressant, c'est-à-dire sur l'idée que la Chine trouverait en la République islamique iranienne un Eldorado économique, est-ce que cette idée-là vous semble valide ou pas ?
Absolument. Moi, je pense aussi ces mouvements de masse, les émigrations internes du pays sont liées à cet accord parce qu'ils veulent complètement dépeupler certaines régions de l'Iran pour les abandonner, pour les rendre complètement aux Chinois. Par exemple, ils ont asséché les terres d'une partie qui s'appelle Khuzestan. Ils ont complètement asséché les terres agricoles de Khuzestan parce que sous ces terres, il y a du pétrole. Et ils ont complètement abandonné ces parties de la région de Khuzestan dans les mains des Chinois. Je pense que ça fait partie de leur accord, mais évidemment, on n'en sait pas plus.
Alors, on avait eu l'occasion de vous entendre à de très nombreuses reprises au cours de ces manifestations de style au régime, qui continue, et il y a encore des mouvements, c'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça n'existe plus, toujours se méfier du prisme déformateur des médias. Au-delà de l'aspect strictement politique sur la nature même de ce régime que vous nous avez partiellement décrit, on avait aussi nombre de revendications socio-économiques, peut-être d'avoir un vrai pays, peut-être d'avoir une vraie économie, peut-être d'avoir de vrais débouchés professionnels, etc. Où en sommes-nous sur peut-être déjà nous rappeler ce qu'ont été ces revendications socio-économiques qui étaient réclamées par la population iranienne, qu'est-ce qui a été demandé et qu'est-ce qui a été obtenu, mais peut-être revenir dans un premier temps sur ce que les gens voulaient et demandaient.
Écoutez, les Iraniens savent pertinemment que l'économie est complètement liée aux politiques. Quand le politique, le politique dans le sens fondamental, pas dans le sens extérieur, quand le politique est gouverné par une kleptocratie, évidemment l'économie tombe dans le désastre comme la situation actuelle. C'est pourquoi les revendications des Iraniens n'étaient jamais centrées sur l'économie pure. Ils demandent le changement de régime, tout simplement. Ils demandent le changement de régime parce qu'ils savent que tant que ce régime est en place, l'économie reste dans cette situation.
Mais c'est vrai qu'il y avait aussi quand même des demandes par rapport... quand on regardait ce que c'était très sectorisé, finalement, les manifestations, et on avait des gens qui demandaient d'avoir peut-être plus de clarté, moins de corruption. La corruption que vous avez abordée dès le début de notre entretien, qui semble être un problème tout à fait majeur dans ce pays. Il y a aussi la volonté d'avoir une véritable visibilité sur ce que sont l'ensemble des rouages de cet État. Pourquoi cette opération? Le régime en profite.
C'est une kleptocratie criminelle. C'est tout à fait normal qu'il cache ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de piller le pays. Mais je les comprends.
Mais cela dit, il y a quand même des. Par exemple, sur l'aspect pétrolier, l'aspect gaz, qui est le pétrole qui est tout à fait important, pendant très longtemps, on a reproché à l'Iran de ne pas avoir, par exemple, des infrastructures de raffinement. On disait, oui, mais vous avez du pétrole, mais vous n'êtes pas capable de raffiner votre or noir. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits? Est-ce qu'il y a une organisation qui a été faite? Non? Mais
non, pas du tout.
Comment c'est possible, ça, de ne pas bouger sur des dossiers aussi vitaux que, par exemple, le pétrole?
Et moi, quand je regarde le fonctionnement du régime, je pense que ce sont les gens qui raisonnent à court terme. Ils ne voient pas beaucoup d'avenir pour eux-mêmes, donc ils essayent de piller le plus possible le pays dans le moindre du temps. Donc, ils n'ont pas des vues à long terme. Leur vue est toujours à court terme. Aujourd'hui, on pille de cette façon. On va pas. Et on l'entend très souvent de la bouche du guide de la Révolution qui disait, par exemple, vous voyez, on nous a dit qu'on ne va pas traverser l'hiver, mais on est en printemps et on est toujours là. Ça montre à quel point ils ne voient pas leur survie à long terme. C'est pourquoi leur manière de diriger ce pays est toujours sur les profits et sur les intérêts à court terme.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il y a une volonté de la part de l'Iran de tisser des alliances. Alors, celles-ci sont existantes, on les connaît parfaitement bien. Par exemple, avec la Syrie, en permanence, l'Iran demande au régime de Bachar al-Assad d'avoir accès à plus de marchés. C'est-à-dire qu'il y a quand même des ambitions d'affirmer une présence, pas seulement politique, pas seulement théologique, mais aussi d'affirmer une présence du monde des affaires dans des pays comme la Syrie, au sud Liban, dans les territoires palestiniens. Bon, là, le dossier, on peut le mettre de côté parce que c'est quand même dans une situation qui est très complexe en raison de la guerre de Gaza. Mais il y a quand même un expansionnisme qui existe.
Justement, dans le passé, nous avons vu à quel point la République islamique était incapable de créer cet expansionnisme dont vous parlez. Mmh. Par exemple, les Iraniens ont complètement détruit l'économie libanaise.
C'est-à-dire, expliquez-nous ça, c'est intéressant, expliquez-nous ça.
Le Hezbollah a pris les choses en main parce qu'il est très puissant au Liban et aujourd'hui l'économie libanaise est complètement les banques libanaises sont en faillite tellement le Hezbollah n'a pas réussi à faire fonctionner cet argent qu'il a reçu directement de l'Iran dans l'économie et être productif. Il n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas seulement l'Iran qui est en faillite, mais le Liban également. À chaque fois, les Iraniens sont intervenus quelque part, ils ont créé de la destruction et de chaos dans l'économie de ce pays. Et par rapport à la Syrie, bon, peut-être au niveau de discursif, par exemple, ils disent qu'il faut faire ceci ou cela, mais en réalité, les gens de la République islamique, ainsi que leurs alliés, ils ont montré qu'ils sont capables de nuire sur le plan militaire les pays voisins, par contre, totalement incapables de créer une expansion économique, quel que soit le contexte ou le pays où ils se sont trouvés.
Mais ça c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent les grandes puissances hégémoniques, celles qui ont des capacités de projection importantes, sont aidées par l'économie. Par exemple, c'est vrai que la Chine aujourd'hui a un vecteur qui s'appelle l'économie chinoise et c'est une économie qui s'exporte formidablement bien, donc ça aide à l'expansionnisme chinois. Aujourd'hui, finalement, si on vous écoute, on se dit que l'Iran pâtit de capacité économique somme toute assez faible et verrait finalement ses capacités de projection sur l'étranger quelque peu affaiblies par des difficultés à créer le monde des affaires, je ne sais pas.
Et ils ont quand même été très très puissants dans l'expansion de la mafia de drogue. Ils ont créé une très grande mafia qui va jusqu'au Canada. Aujourd'hui, les Canadiens disent qu'ils trouvent en fait les traces des Iraniens et du Hezbollah jusqu'à Vancouver, par exemple. Là-dessus, ils étaient capables. Par contre, dans les voies normales de l'économie, ils ont montré leur incapacité de créer une économie saine. Et leur talent, c'est dans les marchés noirs. Là-dessus, ils sont capables. Et c'est ainsi qu'ils continuent à vivre, grâce aux marchés noirs.
Mais ça peut tenir combien de temps,
la mafia.
Mais même si on prend pour les Russes aussi, pour les Chinois ou pour enfin, la Corée du Nord, c'est quand même un pays un peu particulier. Mais Ça peut tenir combien de temps? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une question qu'on se pose régulièrement. On se demande toujours, mais comment ce pays fait, ce régime fait-il pour rester toujours debout, quoi? C'est assez incroyable quand même. Quel est le, c'est quoi, c'est la, dites-nous, parce que ça, on aimerait vraiment comprendre.
Ah ben non, ça peut tenir très très longtemps.
Mais,
déjà,
ouais.
Il n'y a pas plus solide qu'un régime dictatorial. Ce sont les démocraties qui sont fragiles, ce sont les démocraties qui sont instables, alors qu'un régime dictatorial est extrêmement solide parce qu'il tue pour rester en place.
Ouais.
Et tant qu'ils ont des armes pour tuer, ils peuvent rester en place. Tant que les pays démocratiques continuent à fermer les yeux, tant que les pays démocratiques se rendent complices avec leur silence, ben vous pouvez attendre que cette économie noire de la République islamique et ses alliés continue à faire leurs sévices partout dans le monde.
Alors après, la parole est libre, la pensée est libre, vous l'exprimez tout à fait librement et c'est très bien ainsi. Mais la complicité des pays occidentaux, je ne sais pas, c'est quand même... l'Amérique est quand même très, très... repensons à l'Amérique de Donald Trump sans anticiper ce que sera le résultat de la prochaine présidentielle. Les Américains sont quand même très, très, très remontés, très, très vigilants, très, très attentifs. Il y a quand même beaucoup de trains de sanctions qui ont été pris, qui ont été menés. Je veux dire, on peut pas dire, enfin, je ne sais pas si on peut dire que les États-Unis sont complices de l'économie iranienne. Ça me semble un
Non,
peu...
on a bien laissé les Américains seuls sur le terrain,
Ah, d'accord, ok.
d'ailleurs. Les sanctions que les Américains ont lancées sur l'Iran ont été détournées avec la complicité des autres pays. Mais les Américains, si vous parlez avec eux, vous voyez à quel point ils dénoncent eux-mêmes le fait que leurs sanctions n'ont pas été suivies par les autres pays, qui auraient dû quand même.
Oui, mais pourquoi les Américains n'ont pas eu cette capacité d'emportement? Parce que c'est vrai que ça aurait pu être un moyen de porter un coup dur à ce régime. Pourquoi ces trains de sanctions parce qu'on se souvient que, alors c'est un autre dossier encore, je suis désolé, on revient sur l'Irak, mais souvenons-nous des sanctions contre le régime de Saddam Hussein pendant des années. Il y a eu une économie parallèle qui s'est mise en place, notamment avec le pétrole, hein, qui était vendu illégalement par les autorités irakiennes de l'époque. Donc un train de sanctions égale souvent un contre-système. Mais là, avec la persistance américaine, on se dit, c'est quand même étonnant que finalement ils étaient assez seuls sur ce dossier-là, puisque à qui profite finalement l'intérêt que ce régime reste en place?
C'est un régime qui est à la tête d'un pays extrêmement riche et c'est un régime qui sait se montrer généreux avec ses alliés. Donc, ils sont des grands acheteurs des armements dans le monde déjà. Ils sont sur toutes sortes d'économies qu'on peut même pas penser et imaginer. Évidemment, ils ont leurs alliés. Évidemment, ils savent créer des alliés là-dessus. Donc, ce n'est pas ça. Mais par contre, je pense que l'arrivée d'un prochain président un peu plus
Américain,
dur
ouais.
que Biden, par exemple, si Trump il revient à la présidence des États-Unis, on peut penser que, en fait, la situation pour les Iraniens deviendra plus difficile.
C'est-à-dire que le, c'est-à-dire que parce que les sanctions existent déjà, hein, les sanctions existent déjà, c'est-à-dire que l'application serait plus sévère, plus rigide, plus dure, c'est cela.
Les sanctions n'existent déjà, mais les dirigeants de la République islamique les détournent avec une très grande facilité. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ils disent que ça fait tant d'années que nous avons des sanctions extrêmement dures, mais nous avons réussi à établir notre système pour les contourner. Ils le disent, ils ne font absolument pas de timidité là-dessus, ils le disent à haute voix. Ils ne cachent pas, ils le disent à haute voix. Alors donc, est-ce que avec l'arrivée éventuelle de Donald Trump, la situation va devenir plus difficile pour les gens de la République islamique. En tout cas, eux-mêmes, ils ont peur de l'arrivée éventuelle de Trump. En tout cas, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui les attend et ils le craignent. Ils le craignent parce qu'ils pensent que Trump, il n'est pas quelqu'un facile à traiter comme les autres dirigeants démocrates. Il est imprévisible et cette imprévisibilité le rend effrayant aux yeux des dirigeants iraniens.
Merci Manaj Shirali, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Economia. On peut rappeler cet ouvrage que vous avez signé récemment qui s'appelle Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné. C'est sorti aux éditions Les Pérégrines. On revient au Maroc avec la fin de la grève dans le secteur de la santé. Depuis cette semaine, depuis mardi, un accord a été signé avec le ministère de la Santé et puis les syndicats. Un consensus a été obtenu sur des points qui étaient somme toute assez délicats, comme le salaire des infirmiers ou encore des techniciens de santé. On écoute sur ce point Mohamed Herroua, qui est docteur et secrétaire général de l'Organisation démocratique de la santé.
Monsieur le ministre nous a communiqué les réponses du gouvernement, l'ensemble des points qu'on a laissés pour le ministère pour les discuter. Nous les trouvons très satisfaisants. Répondre à nos ambitions. Bien sûr, il y a tout un travail technique à faire pour la mise en œuvre au cours de ces semaines, mais les deux points essentiels ont été accordés, soit garder le gain de fonctionnaires et surtout 1500 dirhams et 1200 dirhams pour les infirmiers et les gens qui travaillent dans l'administration. Nous avons jugé utile d'arrêter ces grèves.
Merci Mohamed Herroua. C'est sur ces mots que vont se terminer cette nouvelle édition de Economia. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.